Chapitre 10, le docteur Gilbert, le triangle, Sébastien Gilbert. Pendant que le peuple s'élance, rugissant à la fois de joie et de colère dans les cours de la Bastille, deux hommes barbotent dans l'eau bourbeuse des fossés. Ces deux hommes sont Pitou et Billot. Pitou soutient Billot. Aucune balle ne l'a frappé, aucun coup ne l'a atteint, mais sa chute a tant soit peu étourdi le bon fermier. On leur jette des cordes, on leur tend des perches. Pitou attrape une perche, Billot une corde. 5 minutes après, ils sont portés en triomphe et embrassés, tout fangeux qu'ils soient. L'un donne à Billot un coup d'eau-de-vie, l'autre bourre Pitou de saucisson et de vin. Un troisième les bouchonne et les conduit au soleil. Tout à coup, une idée, ou plutôt un souvenir, traverse l'esprit de Billot. Il s'arrache à ses soins empressés et s'élance vers la Bastille. « Aux prisonniers » crie-t-il en courant. « Aux prisonniers !»« Oui, aux prisonniers !» crie Pitou en s'élançant à son tour derrière le fermier. La foule, qui jusque-là n'avait pensé qu'aux bourreaux, tressaille en pensant aux victimes. On répète d'un seul cri « Oui, 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 aux prisonniers !» et un nouveau fleuve d'assaillants rompt les digues et semble élargir les flancs de la forteresse pour y porter la liberté. Un spectacle terrible s'offrit alors aux yeux de Billot et de Pitou. La foule, ivre, enragée et furieuse, s'était ruée dans la cour. Le premier soldat qui lui était tombé sous la main, elle l'avait mis en morceaux. Gonchon regardait faire. Sans doute pensait-il que la colère du peuple est comme le cours des grands fleuves, qu'elle fait plus de mal si on essaie de l'arrêter que si on la laisse tranquillement s'écouler. Élie et Hulin, au contraire, s'étaient jetés en avant des massacreurs. Ils priaient, ils suppliaient, disant, sublime mensonge, qu'ils avaient promis la vie sauve à la garnison. L'arrivée de Billot et de Pitou fut un renfort pour eux. Billot, qu'on vengeait, Billot était vivant. Billot n'était même pas blessé. La planche avait tourné sous son pied, voilà tout. Il avait pris un bain de fange et pas autre chose. C'était surtout aux Suisses qu'on en voulait particulièrement, mais l'on ne trouvait plus de Suisses. Ils avaient eu le temps de passer des sarraux de toile grise, et on les prenait pour des domestiques ou des prisonniers. La foule brisa à coups de pierre les deux captifs du cadran. La foule s'élança au haut des tours pour insulter ces canons qui avaient vomi la mort. La foule s'en prenait aux pierres et s'ensanglantait les mains en voulant les arracher. Quand on vit apparaître les premiers vainqueurs sur la plateforme, tout ce qui était au dehors, c'est-à-dire 100 000 hommes, jeta une immense clameur. Cette clameur s'éleva sur Paris et s'élança sur la France comme un aigle aux ailes rapides. La Bastille est prise. À ce cri, les cœurs se fondirent, les yeux se mouillèrent, les bras s'ouvrirent. Il n'y eut plus de partis opposés, il n'y eut plus de castes ennemies. Tous les Parisiens sentirent qu'ils étaient frères, tous les hommes comprirent qu'ils étaient libres. 1 million d'hommes s'étreignit dans un mutuel embrassement. Billot et Pitou étaient entrés à la suite des uns et précédant les autres. Ce qu'ils voulaient, eux, ce n'était pas leur part du triomphe, c'était la liberté des prisonniers. En traversant la cour du gouvernement, ils passèrent près d'un homme en habit gris qui se tenait calme et la main appuyée sur une canne à pommes d'or. Cet homme, c'était le gouverneur. Il attendait tranquillement ou que ses amis le sauvassent ou que ses ennemis vinssent le frapper. Billot, en l'apercevant, le reconnut, poussa un cri et marcha droit à lui. Delaunay aussi le reconnut. Il se croisa les bras et attendit, regardant Billot comme pour lui dire « Voyons, est-ce que vous me porterez le premier coup ?» Billot comprit et s'arrêta. « Si je lui parle, dit-il, je le fais reconnaître. S'il est reconnu, il est mort. » Et cependant, comment trouver le docteur Gilbert au milieu de ce chaos? Comment arracher à la Bastille le secret enfermé dans ses entrailles? Toute cette hésitation, tout ce scrupule héroïque, Delaunay le comprit de son côté. « Que voulez-vous ? » demanda à demi-voix Delaunay. « Rien, dit Billot en lui montrant du doigt la porte pour lui indiquer que la fuite était encore possible. « Rien, je saurais bien trouver le docteur Gilbert. » « Troisième Berthaudière, répondit Delaunay, d'une voix douce, presque attendrie, et il demeura à la même place. Tout à coup, derrière Billot, une voix prononça ces mots. « Ah, voilà le gouverneur !» Cette voix était calme, comme si elle n'eût pas appartenu à ce monde, et cependant on sentait que chaque mot qu'elle avait prononcé était un poignard acéré, tourné contre la poitrine de Delaunay. Celui qui avait parlé, c'était Gonchon. À ces mots, comme au tintement d'une cloche d'alarme, tous ces hommes, ivres de vengeance, tressaillirent, regardèrent avec des yeux flamboyants, aperçurent Delaunay et se précipitèrent sur lui. « Sauvez-le, dit Billot, en passant près d'Élie et de Hulin, où il est perdu. « Aidez-nous, répondirent les deux hommes. Moi, il faut que je reste ici, j'ai aussi quelqu'un à sauver. » En un clin d'œil, Delaunay, saisi par mille mains furieuses, était enlevé, entraîné, emporté. Élie et Hulin s'élancèrent après lui en criant « Arrêtez, nous lui avons promis la vie sauve !» Ce n'était pas vrai, mais ce mensonge sublime s'élançait à la fois de ces deux nobles cœurs. En une seconde, Delaunay, suivi d'Élie et d'Hulin, disparut dans le passage qui donnait, sortit à la Bastille au milieu des cris « À l'hôtel de ville ! À l'hôtel de ville !» Delaunay, proie vivante, valait bien pour certains vainqueurs cette proie morte de la Bastille vaincue. Au reste, c'était un étrange spectacle que le triste et silencieux monument, visité depuis 4 siècles par les gardes, par les geôliers et par un sombre gouverneur seulement, devenu la proie du peuple qui courait dans les préaux, montait et descendait les escaliers, bourdonnant comme un essaim de mouches et emplissant la ruche de granit de mouvements et de rumeurs. Billot suivit un instant des yeux de Delaunay qui, emporté plutôt que conduit, semblait planer au-dessus de la foule. Mais en une seconde, il disparut. Billot poussa un soupir, regarda autour de lui, aperçut Pitou et s'élança vers une tour en criant « Troisième Bertaudière !» Un geôlier, tremblant, se trouva sur son chemin. « Troisième Bertaudière !» dit Billot. « Par ici, monsieur !» dit le geôlier. « Mais je n'ai plus les clés !» « Où sont-elles ? Ils me les ont prises. »« Citoyen, prête-moi ta hache, » dit Billot à un faubourien. « Je te la donne, » répondit celui-ci, « je n'en ai plus besoin, puisque la Bastille est prise. » Billot saisit la hache et s'élança dans un escalier conduit par le geôlier. Le geôlier s'arrêta devant une porte. « Troisième Bertaudière ?» demanda Billot. « Oui, c'est ici. » « Le prisonnier que renferme cette chambre s'appelle le docteur Gilbert ?»« Je ne sais pas. » « Arrivé depuis 5 ou 6 jours seulement, je ne sais pas. »« Eh bien, dit Billot, je vais le savoir, moi. » Il entama la porte à grands coups de hache. Elle était de chêne, mais sous les coups du robuste fermier, le chêne volait en éclats. Au bout d'un instant, le regard put pénétrer dans la cellule. Billot appliqua son œil par l'ouverture. Par l'ouverture, son regard plongea dans la prison. Dans la ligne du rayon de jour qui pénétrait dans le cachot par la fenêtre grillée de la tour, un homme était debout, un peu renversé en arrière, tenant à la main une des traverses arrachées à son lit dans l'attitude de la défense. Cet homme se tenait évidemment prêt à assommer le premier qui entrerait. Malgré sa barbe longue, malgré son visage pâle, malgré ses cheveux coupés courts, Billot le reconnut. C'était le docteur Gilbert. « Docteur, docteur !» s'écria Billot. « Est-ce vous ?»« Qui m'appelle ?» demanda le prisonnier. « Moi, moi, Billot, votre ami !»« Vous, Billot ?»« Oui, oui, lui, lui, nous, nous !» crièrent 20 voix d'hommes qui s'étaient arrêtés sur le palier au coup terrible que frappait Billot. « Qui, vous ?»« Nous, les vainqueurs de la Bastille. La Bastille est prise, vous êtes libre !»« La Bastille est libre ? Je suis libre !» s'écria le docteur. Et, passant ses 2 mains par l'ouverture, il secoua si fortement la porte que les gonds et la serrure parurent prêts à se desceller et qu'un pan de chêne déjà ébranlé par Billot craqua et se rompit et resta aux mains du prisonnier. « Attendez, attendez !» dit Billot, qui comprit qu'un second effort pareil épuiserait ses forces un instant surexcitées. « Attendez !» Et il redoubla ses coups. En effet, à travers l'ouverture qui allait s'agrandissant, il put voir le prisonnier qui était retombé assis sur son escabeau, pâle comme un spectre et incapable de soulever cette traverse de bois gisante près de lui, pareil à un Samson qui avait manqué d'ébranler la Bastille. Billot, Billot, murmurait-il, oui, et moi aussi, moi, Pitou, monsieur le docteur, vous vous rappelez bien le pauvre Pitou que vous aviez mis en pension chez Tante Angélique, Pitou, qui vient vous délivrer. Mais je ne puis passer par ce trou, cria le docteur. Non, non, répondirent toutes les voix, attendez. Chacun des assistants, réunissant ses forces dans un commun effort, les uns glissant une pince entre la muraille et la porte, les autres faisant jouer un levier à l'endroit de la serrure, les autres enfin poussant avec leurs épaules raidies et leurs mains crispées, le chêne fit entendre un dernier craquement, la muraille s'écailla, et tous ensemble, par la porte brisée, par la muraille écornée, se ruèrent comme un torrent dans l'intérieur de la prison. Gilbert se trouva entre les bras de Pitou et de Billot. Gilbert, le petit paysan du château de Tavernay, Gilbert que nous avons laissé baigner dans son sang dans une grotte des Açores, était alors un homme de 34 à 35 ans, au teint pâle sans être maladif, aux cheveux noirs, aux yeux fixes et volontaires. Jamais son regard ne se perdait dans le vague, n'errait dans l'espace. Quand il ne se fixait pas sur quelque objet extérieur digne de l'arrêter, il se fixait sur sa propre pensée et n'en devenait que plus sombre et plus profond. Son nez était droit, s'attachant à son front par une ligne directe. Il surmontait une lèvre dédaigneuse qui, comme attirée par lui, laissait apercevoir l'émail éblouissant de ses dents. Dans les temps ordinaires, sa mise était simple et sévère comme celle d'un quaker, mais cette sévérité touchait à l'élégance par l'extrême propreté. Sa taille, un peu au-dessus de la moyenne, était bien prise. Quant à sa force, toute nerveuse, nous avons vu tout à l'heure jusqu'où elle pouvait aller dans un premier mouvement de surexcitation, que ce mouvement eût pour cause la colère ou l'enthousiasme. Quoiqu'en prison depuis 5 ou 6 jours, le prisonnier avait pris les mêmes soins de lui. Sa barbe, longue de plusieurs lignes, faisait d'autant mieux ressortir le mat de son teint et indiquait seule une négligence qui ne venait pas du prisonnier, mais du refus qu'on lui avait fait de lui donner un rasoir ou de lui faire la barbe. Quand il eut serré dans ses bras Billot et Pitou, il se retourna vers la foule qui encombrait son cachot. Puis, comme si un instant avait suffi pour lui rendre toute sa puissance sur lui-même, le jour que j'avais prévu est donc arrivé, dit-il. Merci à vous, mes amis, merci au génie éternel qui veille sur la liberté des peuples. Et il tendit ses deux mains à la foule qui, reconnaissant à la hauteur de son regard, à la dignité de sa voix, un homme supérieur, osa à peine les toucher. Et sortant du cachot, il marcha devant tous ses hommes, appuyé sur l'épaule de Billot et suivi de Pitou et de ses libérateurs. Le premier mouvement avait été donné par Gilbert à l'amitié et à la reconnaissance. Le second avait établi la distance qui existe entre le savant docteur et l'ignorant fermier, le bon Pitou et toute cette foule qui venait de le délivrer. Arrivé à la porte, Gilbert s'arrêta devant la lumière du ciel qui venait l'inonder. Il s'arrêta, croisant les bras sur sa poitrine et levant les yeux au ciel. Salut, belle liberté, dit-il. Je t'ai vu naître sur un autre monde et nous sommes de vieux amis. Salut, belle liberté. Et le sourire du docteur disait en effet que ce n'était pas chose nouvelle pour lui que ces cris qu'il entendait de tout un peuple ivre d'indépendance. Puis, se recueillant quelques secondes, Billot, dit-il, le peuple a donc vaincu le despotisme? Oui, monsieur. Et vous êtes venu vous battre? Je suis venu pour vous délivrer. Vous saviez donc mon arrestation? Votre fils me l'a apprise ce matin. Ah, pauvre Sébastien, l'avez-vous vu? Je l'ai vu. Il est demeuré tranquille à sa pension. Je l'ai laissé se débattant aux mains de 4 infirmiers. Est-il malade? A-t-il le délire? Il voulait se battre avec nous. Ah, dit le docteur, et un sourire de triomphe passa sur ses lèvres. Son fils était selon son espoir. Alors, vous avez dit, demanda-t-il, interrogeant Billot. J'ai dit, puisque le docteur Gilbert est à la Bastille, prenons la Bastille, maintenant. La Bastille est prise. Ce n'est pas le tout. Qu'y a-t-il? Demanda le docteur. La cassette est volée. La cassette que je vous avais confiée? Oui. Et volée par qui? par des hommes noirs qui se sont introduits à la maison sous prétexte de saisir votre brochure, qui m'ont arrêté enfermé dans la cave, ont fait perquisition dans la maison, ont trouvé la cassette et l'ont emportée. Quel jour ? Hier. Oh, il y a coïncidence évidente entre mon arrestation et le vol. C'est la même personne qui m'a fait arrêter, qui a fait en même temps voler la cassette. Que je sache l'auteur de l'arrestation et je connaîtrai l'auteur du vol. Où sont les archives ? Continua le docteur Gilbert en se retournant du côté du geôlier. Cour du gouvernement, monsieur, répondit celui-ci. Alors, aux archives, ami, aux archives ! Cria le docteur. Monsieur, dit le geôlier en l'arrêtant, laissez-moi vous suivre ou recommandez-moi à ces braves gens afin qu'ils ne m'arrivent pas malheur. Soit, dit Gilbert. Alors, se retournant vers la foule qui l'entourait avec une curiosité mêlée de respect, « Ami, dit-il, je vous recommande ce brave homme. Il faisait son métier en ouvrant, en fermant les portes, mais il était doux aux prisonniers, qu'il ne lui soit fait aucun mal. « Non, non, cria-t-on de toutes parts, non, qu'il ne craigne rien, qu'il n'ait pas peur, qu'il vienne. Ah, »« Merci, monsieur, dit le geôlier, mais si vous en voulez aux archives, hâtez-vous, je crois qu'on brûle les papiers. » « Oh, alors, pas un instant à perdre !» s'écria Gilbert. « Aux archives !» Et il s'élança vers la cour du gouvernement, entraînant derrière lui la foule, à la tête de laquelle marchaient toujours Billot et Pitou. À la porte de la salle des archives brûlait effectivement un immense feu de paperasse. Malheureusement, un des premiers besoins du peuple après la victoire, c'est la destruction. Les archives de la Bastille étaient envahies. C'était une vaste salle encombrée de registres et de plans. Les dossiers de tous les prisonniers, enfermés depuis 100 ans à la Bastille, y étaient confusément enfermés. Le peuple lacérait ses papiers avec rage. Il lui semblait sans doute qu'en déchirant tous ces registres d'écrou, il rendait légalement la liberté aux prisonniers. Gilbert entra. Secondé par Pitou, il se mit à compulser les registres encore debout sur les rayons. Le registre de l'année courante ne s'y trouvait pas. Le docteur, l'homme calme et froid, pâlit et frappa du pied avec impatience. En ce moment, Pitou avisa un de ces héroïques gamins, comme il y en a toujours dans les victoires populaires, qui emportait sur sa tête, en courant vers le feu, un volume de forme et de reliure pareil à celui que feuilletait le docteur Gilbert. Il courut à lui et, avec ses longues jambes, il l'eut bientôt rejoint. C'était le registre de l'année 1789. La négociation ne fut pas longue. Pitou se fit connaître comme vainqueur, expliqua le besoin qu'un prisonnier avait de ce registre, lequel lui fut cédé par le gamin qui se consola en disant « Bah, j'en brûlerai un autre ». Pitou ouvrit le registre, chercha, feuilleta, lut, et arrivé à la dernière page, il trouva ces mots « Aujourd'hui, 9 juillet 1789, est entré le sieur G, philosophe et publiciste très dangereux, le maître au secret le plus absolu. » Il porta le registre au docteur. « Tenez, monsieur Gilbert, n'est-ce pas cela que vous cherchez ?»« Oh ! » s'écria le docteur en saisissant le registre. « Oui, c'est cela !» Et il lut ces mots que nous avons dits. « Et maintenant, voyons de qui vient l'ordre. » Et il chercha à la marge. « Necker ! » s'écria-t-il. « L'ordre de m'arrêter est signé par Necker, mon ami ! Oh, bien certainement, il y a ici quelque surprise. »« Necker est votre ami ! » s'écria la foule avec respect, car on se rappelle quelle influence avait ce nom sur le peuple. « Oui, oui, mon ami, je le soutiens, » dit le docteur, « et Necker, j'en suis convaincu, ignorait que j'étais en prison, mais je vais aller le trouver et... » « Le trouver où ?» demanda Billot. « À Versailles, donc. Monsieur Necker n'est point à Versailles. Monsieur Necker est exilé. »« Où cela ?»« À Bruxelles. »« Et sa fille ?»« Oh, je ne sais pas, » dit Billot. « La fille habite la campagne de Saint-Ouen, » dit une voix dans la foule. « Merci, » dit Gilbert, sans même savoir à qui il adressait son remerciement. Et puis, se retournant vers les brûleurs, « Ami, dit-il, au nom de l'histoire, qui trouvera dans ses archives la condamnation des tyrans, assez de dévastation comme ça, je vous en supplie, démolissez la Bastille, pierre par pierre, qu'il n'en reste point trace, qu'il n'en reste point vestige, mais respectez les papiers, respectez les registres, la lumière de l'avenir est là. » À peine la foule eut-elle entendu ces paroles qu'elle les pesa avec sa suprême intelligence. Le docteur a raison, crièrent sans voix. Pas de dévastation. À l'hôtel de ville, tous les papiers. Un pompier, qui était entré dans la cour avec 5 ou 6 de ses camarades, traînant une pompe, dirigea le tuyau de son instrument vers le foyer, qui, pareil à celui d'Alexandrie, était en train de dévorer les archives d'un monde, et il l'éteignit. « Et à la requête de qui avez-vous été arrêté ?» demanda Billot. Ah, « voilà justement ce que je recherche et que je ne puis savoir, le nom est en blanc. » Et puis, après un instant de réflexion, « Mais je le saurai, » dit-il. Et arrachant la feuille qui le concernait, il la plia en 4 et la mit dans sa poche. Et puis, s'adressant à Billot et à Pitou, « Ami, » dit-il, « sortons, nous n'avons plus rien à faire ici. »« Sortons, » dit Billot, « seulement c'est chose plus facile à dire qu'à exécuter. » En effet, la foule, poussée dans l'intérieur des cours par la curiosité, affluait à l'entrée de la Bastille, dont elle encombrait les portes. C'est qu'à l'entrée de la Bastille étaient les autres prisonniers. 8 prisonniers, y compris Gilbert, avaient été délivrés. Ils s'appelaient Jean Bechade, Bernard Laroche, Jean Lacourège, Antoine Pujade, De Witt, le comte de Solages et Tavernier. Les 4 premiers n'inspiraient qu'un intérêt secondaire. Ils étaient accusés d'avoir falsifié une lettre de change sans que jamais une preuve se soit élevée contre eux, ce qui ferait croire que l'accusation était fausse. Ils étaient à la Bastille depuis 2 ans seulement. Les autres étaient le comte de Solages, De Witt et Tavernier. Le comte de Solages était un homme de 30 ans à peu près, plein de joie et d'expansion. Il embrassait ses libérateurs, exaltait leur victoire, leur racontait sa captivité. Arrêté en 1782 et enfermé à Vincennes à la suite d'une lettre de cachet obtenue par son père, il avait été transporté de Vincennes à la Bastille, où il était resté 5 ans sans avoir vu un juge, sans avoir été interrogé une fois. Depuis 2 ans, son père était mort et nul n'avait songé à lui. Si la Bastille n'eût point été prise, il est probable que nul n'y eût jamais songé. De Witt était un vieillard de 60 ans. Il prononçait avec un accent étranger des paroles incohérentes. Aux interrogations qui se croisaient, il répondait qu'il ignorait depuis combien de temps il était arrêté et pour quelle cause il avait été arrêté. Il se souvenait être le cousin de monsieur de Sartine, voilà tout. Un porte-clés nommé Guillon avait vu en effet monsieur de Sartine entrer une fois dans le cachot de De Witt et lui faire signer une procuration. Mais le prisonnier avait complètement oublié cette circonstance. Tavernier était le plus vieux de tous. Il comptait 10 ans de réclusion aux îles Sainte-Marguerite, 30 ans de captivité à la Bastille. C'était un vieillard de 90 ans, à cheveux blancs, à barbe blanche. Ses yeux s'étaient usés dans l'obscurité et il ne voyait plus qu'à travers un nuage. Lorsqu'on entra dans sa prison, il ne comprit pas ce qu'on venait y faire. Quand on lui parla de liberté, il secoua la tête. Et puis enfin, quand on lui dit que la Bastille était prise, « Oh, dit-il, que vont dire de cela le roi Louis XV, Madame de Pompadour et le duc de La Vrière ?» Tavernier n'était même plus fou comme De Witt, il était idiot. La joie de ces hommes était terrible à voir, car ils criaient « vengeance » tant elle ressemblait à de l'effroi. 2 ou 3 semblaient près d'expirer au milieu de ce tumulte composé de 100 000 clameurs réunis, eux que jamais la voix de 2 hommes parlant à la fois n'avait frappé depuis leur entrée à la Bastille. Eux qui n'étaient plus accoutumés qu'au bruit lent et mystérieux du bois qui joue dans l'humidité, de l'araignée qui tisse sa toile inaperçue avec un battement pareil à celui d'une pendule invisible ou du rat effaré qui gratte et passe. Au moment où Gilbert parut, les enthousiastes proposaient de porter les prisonniers en triomphe, proposition qui fut acceptée à l'unanimité. Gilbert eût fort désiré échapper à cette ovation, mais il n'y avait pas moyen, il était déjà reconnu ainsi que Billot et Pitou. Les cris « À l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville !» retentirent, et Gilbert se trouva soulevé sur les épaules de 20 personnes à la fois. En vain, le docteur voulut-il résister En vain Billot et Pitou distribuèrent-ils à leurs frères d'armes leurs plus braves coups de poing. La joie et l'enthousiasme avaient durci l'épiderme populaire. Coups de poing, coups de pique, coups de crosse de fusil parurent aux vainqueurs doux comme des caresses, et ils ne firent que redoubler leur enivrement. Force fut donc à Gilbert de se laisser élever sur le pavois. Le pavois était une table au milieu de laquelle on avait planté une lance destinée à servir de point d'appui aux triomphateurs. Le docteur domina cet océan de têtes ondulant de la Bastille à l'arcade Saint-Jean, mer pleine d'orages, dont les flots emportaient au milieu des piques, des baïonnettes et des armes de toute espèce, de toute forme et de toute époque, les prisonniers triomphateurs. Mais en même temps que cet océan terrible et irrésistible roulait un autre groupe tellement serré qu'il semblait une île. Ce groupe, c'était celui qui emmenait Delaunay prisonnier. Autour de ce groupe, des cris non moins bruyants, non moins enthousiastes que ceux qui accompagnaient les prisonniers se faisaient entendre. Mais ce n'étaient pas des cris de triomphe, c'était des menaces de mort. Gilbert, du point élevé où il se trouvait, ne perdait pas un détail de ce terrible spectacle. Seul parmi tous ces prisonniers qu'on venait de rendre à la liberté, il jouissait de la plénitude de ses facultés. 5 jours de captivité ne faisaient qu'un point obscur dans sa vie. Son œil n'avait pas eu le temps de s'éteindre ou de s'affaiblir dans l'obscurité de la Bastille. Le combat, d'ordinaire, ne rend les combattants impitoyables que pendant le temps qu'ils durent. En général, les hommes sortant du feu, où ils viennent de risquer leur propre vie, sont pleins de mansuétude pour leurs ennemis. Mais dans ces grandes émeutes populaires, comme la France en a tant vu depuis la Jacquerie jusqu'à nous, les masses que la peur a retenues loin du combat, que le bruit a irritées, les masses à la fois féroces et lâches, cherchent après la victoire à prendre une part quelconque à ce combat qu'elles n'ont osé affronter en face. Elles prennent leur part de la vengeance. Depuis sa sortie de la Bastille, la marche du gouverneur était le commencement de son supplice. Élie, qui avait pris la vie de M. Delaunay sous sa responsabilité, marchait en tête, protégé par son uniforme et par l'admiration populaire qu'il avait vue marchant le premier au feu. Il tenait à la main, au bout de son épée, le billet que M. Delaunay avait fait passer au peuple par une des meurtrières de la Bastille et que lui avait remis Maillard. Après lui venait le garde des impositions royales, tenant à la main les clés de la forteresse, puis Maillard, portant le drapeau, puis enfin un jeune homme, montrant à tous les yeux, percé par sa baïonnette, le règlement de la Bastille, odieux rescrit en vertu duquel avaient coulé tant de larmes. Puis enfin venait le gouverneur, protégé par Hulin et par 2 ou 3 autres, mais qui disparaissait au milieu des poings menaçants, des sabres agités, des piques frémissantes. À côté de ce groupe, et roulant presque parallèlement à lui dans cette grande artère de la rue Saint-Antoine qui communique des faubourgs au fleuve, on en distinguait un autre, non moins menaçant, non moins terrible, c'était celui qui entraînait le major de l'homme que nous avons vu apparaître un instant pour lutter contre la volonté du gouverneur et qui avait enfin plié la tête sous la détermination prise par celui-ci de se défendre. Le major de l'homme était un bon, brave et excellent garçon. Bien des douleurs lui avaient dû un adoucissement depuis qu'il était à la Bastille, mais le peuple ignorait cela. Le peuple, à son brillant uniforme, le prenait pour le gouverneur, tandis que le gouverneur, grâce à son habit gris, sans broderie aucune, et dont il avait arraché le ruban de Saint-Louis, se réfugiait dans un certain doute protecteur que pouvaient éclairer seulement ceux qui le connaissaient. Voilà le spectacle sur lequel dominait le regard sombre de Gilbert, ce regard toujours observateur et calme, même au milieu des dangers qui étaient personnels à cette puissante organisation. Hulin, en sortant de la Bastille, avait appelé à lui ses amis les plus sûrs et les plus dévoués, les plus vaillants soldats populaires de cette journée, et 4 ou 5 avaient répondu à son appel et tenté de seconder son généreux dessein en protégeant le gouverneur. C'étaient 3 hommes dont l'impartiale histoire a raconté le souvenir. Ils se nommaient Arnay, Chola et Delépine. Ces quatre hommes, précédés, nous l'avons dit, par Hulin et Maillard, tentaient donc de défendre la vie d'un homme dont 100 000 voix réclamaient la mort. Autour d'eux s'étaient groupés quelques grenadiers des gardes françaises, dont l'uniforme, devenu plus populaire depuis 3 jours, était un objet de vénération pour le peuple. Monsieur Delaunay avait échappé au coup, tant que les bras de ses généreux défenseurs avaient pu parer les coups, mais il n'avait pu échapper aux injures et aux menaces. Au coin de la rue de Jouy, des 5 grenadiers des gardes françaises qui s'étaient joints au cortège à la sortie de la Bastille, pas un ne restait. Ils avaient, l'un après l'autre, été enlevés sur la route par l'enthousiasme de la foule, et peut-être aussi par le calcul des assassins. Et Gilbert les avait vus disparaître l'un après l'autre comme les boules d'un chapelet qui s'égrène. Dès lors, il avait prévu que la victoire allait se ternir en s'ensanglantant. Il avait voulu s'arracher à cette table qui lui servait de pavois, mais des bras de fer l'y tenaient rivés. Dans son impuissance, il avait lancé Billot et Pitou à la défense du gouverneur, et tous deux, obéissant à sa voix, faisaient tous leurs efforts pour fendre ces vagues humaines et pénétrer jusqu'à lui. En effet, le groupe de ses défenseurs avait besoin de secours. Chola, qui n'avait rien mangé depuis la veille, avait senti ses forces s'épuiser et était tombé en défaillance. À grand-peine l'avait-on relevé et empêché d'être foulé aux pieds. Mais c'était une brèche face à la muraille, une rupture à la digue. Un homme s'élança par cette brèche, et faisant tournoyer son fusil par le canon, il en asséna un coup terrible sur la tête nue du gouverneur. Mais de l'épine fit s'abaisser la massue. Il eut le temps de se jeter, les bras étendus entre Delaunay et elle, et reçut au front le coup qui était destiné au prisonnier. Étourdi par le choc, aveuglé par le sang, il porta en chancelant ses mains à son visage, et quand il put voir, il était déjà à 20 pas du gouverneur. Ce fut à ce moment que Billot arriva près de lui, tirant Pitou à la remorque. Il s'aperçut que le signe auquel on reconnaissait surtout Delaunay, c'était que seul le gouverneur était tête nue. Billot prit son chapeau, étendit le bras et le posa sur la tête du gouverneur. Delaunay se retourna et reconnut Billot. « Merci, dit-il, mais quelque chose que vous fassiez, vous ne me sauverez pas. »« Atteignons seulement l'hôtel de ville, dit Hulin, et je réponds de tout. »« Oui, dit Delaunay, mais l'atteindrons-nous ?»« Avec l'aide de Dieu, nous le tenterons du moins, dit Hulin. » En effet, on pouvait l'espérer, on commençait à déboucher sur la place de l'hôtel de ville, mais cette place était encombrée d'hommes aux bras nus agitant des sabres et des piques. La rumeur qui courait par les rues avait annoncé qu'on leur amenait le gouverneur et le major de la Bastille, et, comme une meute longtemps retenue, le nez au vent, les dents grinçantes, ils attendaient. Aussitôt qu'ils virent apparaître le cortège, ils se ruèrent sur lui. Hulin vit que là était le danger suprême, la dernière lutte. S'il pouvait faire monter les escaliers du perron à Delaunay et lancer Delaunay dans les escaliers, le gouverneur était sauvé. « À moi, Élie, à moi, Maillard, à moi, les hommes de cœur » cria-t-il. « Il y va de notre honneur à tous !» Élie et Maillard entendirent l'appel. Ils firent une pointe au milieu du peuple, mais le peuple ne les seconda que trop bien. Il s'ouvrit devant eux et se referma derrière eux. Élie et Maillard se trouvèrent séparés du groupe principal qu'ils ne purent rejoindre. La foule vit ce qu'elle venait de gagner et fit un furieux effort. Comme un boa gigantesque, elle roula ses anneaux autour du groupe. Billot fut soulevé, entraîné, emporté. Pitou, tout entier à Billot, se laissa aller au même tourbillon. Hulin buta sur les premières marches de l'hôtel de ville et tomba. Une première fois, il se releva, mais ce fut pour retomber presque aussitôt, et cette fois, Delaunay le suivit dans sa chute. Le gouverneur resta ce qu'il était. Jusqu'au dernier moment, il ne jeta pas une plainte, il ne demanda point grâce. Il cria seulement, d'une voix stridente, « Au moins, tigre que vous êtes, ne me faites pas languir, tuez-moi sur le champ !» Jamais ordre ne fut exécuté avec plus de ponctualité que cette prière. En un instant, autour de Delaunay tombé, les têtes s'inclinèrent, menaçantes, les bras se levèrent, armés. On ne vit plus pendant un instant que des mains crispées, des fers plongeants. puis une tête sortit, détachée du tronc, et s'éleva, dégoûtante de sang, au bout d'une pique. Elle avait conservé son sourire livide et méprisant. Ce fut la première. Gilbert avait dominé tout ce spectacle. Gilbert, cette fois encore, avait voulu s'élancer pour lui porter secours, mais 200 bras l'avaient arrêté. Il détourna la tête et soupira. Cette tête, aux yeux ouverts, se leva juste et, comme pour le saluer d'un dernier regard, en face de la fenêtre où se tenait Flessel, entouré et protégé par les électeurs. Il eût été difficile de dire lequel était le plus pâle, du vivant ou du mort. Tout à coup, une immense clameur s'éleva à l'endroit où gisait le corps de Delaunay. On l'avait fouillé, et dans la poche de sa veste, on avait trouvé le billet que lui avait adressé le prévôt des marchands et qu'il avait montré à Delhomme. Ce billet était conçu en ces termes, on se le rappelle, « Tenez bon, j'amuse les Parisiens avec des cocardes et des promesses. À la fin de la journée, monsieur de Bézenval vous enverra du renfort signé de Flessel. » Un horrible blasphème monta du pavé de la rue à la fenêtre de l'hôtel de ville où se tenait Flessel. Sans en deviner la cause, il comprit la menace et se rejeta en arrière. Mais il avait été vu, on le savait là, on se précipita par les escaliers, et cette fois d'un mouvement si universel que les hommes qui portaient le docteur Gilbert l'abandonnèrent pour suivre cette marée qui montait sous le souffle de la colère. Gilbert voulut, lui aussi, entrer à l'hôtel de ville, non pour menacer, mais pour protéger Flessel. Il avait déjà franchi les 3 ou 4 premières marches du perron quand il se sentit violemment tiré en arrière. Il se retourna pour se débarrasser de cette nouvelle étreinte, mais cette fois il reconnut Billot et Pitou. « Oh !» s'écria Gilbert, qui, du point élevé où il se trouvait, dominait toute la place. « Que se passe-t-il donc là-bas ? » Et il indiquait de sa main crispée la rue de la Tixeranderie. « Venez, docteur, venez !» dirent à la fois Billot et Pitou. « Oh, les assassins !» s'écria le docteur, « les assassins !» En effet, en ce moment, le major de l'homme tombait, frappé d'un coup de hache. Le peuple confondait dans sa colère, et le gouverneur égoïste et barbare, qui avait été le persécuteur de malheureux prisonniers, et l'homme généreux qui en avait été constamment l'appui. « Oui, 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 dit-il, allons-nous-en, car je commence à être honteux d'avoir été délivré par de pareils hommes. »« Docteur, dit Billot, soyez tranquille, ce ne sont pas ceux qui ont combattu là-bas qui massacrent ici. » Mais au moment même où le docteur descendait les marches qu'il avait montées pour courir au secours de Flessel, le flot qui s'était engouffré sous la voûte était vomi par elle. Au milieu de ce torrent d'armes, un homme se débattait, entraîné. « Au palais royal ! Au palais royal ! » cria la foule. « Oui, mes amis, oui, mes bons amis, au palais royal !» répétait cet homme. Et il roulait vers le fleuve comme si l'inondation humaine eût voulu non pas le conduire au palais royal, mais l'entraîner dans la Seine. « Oh ! » s'écria Gilbert, « encore un qu'ils vont égorger. Tâchons de le sauver, celui-là au moins !» Mais à peine ces paroles étaient-elles prononcées qu'un coup de pistolet se faisait entendre et que Flessel disparaissait dans la fumée. Gilbert couvrit ses yeux de ses deux mains avec un mouvement de sublime colère. Il maudissait ce peuple qui, étant si grand, n'avait pas la force de rester pur et qui souillait sa victoire par un triple assassinat. Puis, quand ses mains s'écartèrent de ses yeux, il vit 3 têtes au bout de 3 piques. La première était celle de Flessel, la seconde celle de l'homme, la troisième celle de Delaunay. L'une s'élevait sur les degrés de l'hôtel de ville, l'autre au milieu de la rue de la Texandrie, la troisième sur le quai Pelletier. Par leur position, elles figuraient un triangle. « Oh, Balsamo, Balsamo !» murmura le docteur avec un soupir. « Est-ce donc avec un pareil triangle que l'on symbolise la liberté ?» Et il s'enfuit par la rue de la Vannerie, entraînant après lui Billot et Pitou. Au coin de la rue Planche-Mibray, le docteur rencontra un fiacre auquel il fit signe de s'arrêter et dans lequel il monta. Billot et Pitou prirent place auprès de lui. « Au collège Louis-le-Grand, » dit Gilbert. Et il se jeta dans le fond de la voiture, où ils tombèrent dans une profonde rêverie que respectèrent Billot et Pitou. On traversa le pont au change, on prit la rue de la Cité, la rue Saint-Jacques, et l'on arriva au collège Louis-le-Grand. Paris était tout frissonnant. La nouvelle était répandue de tous côtés. Le bruit des assassinats de la grève se mêlait au récit glorieux de la prise de la Bastille. On voyait se refléter sur les visages des diverses impressions que les esprits éprouvaient, éclairs de l'âme qui se trahissaient au dehors. Gilbert n'avait pas mis la tête à la portière, Gilbert n'avait pas prononcé une parole. Il y a toujours un côté ridicule aux ovations populaires, et Gilbert voyait son triomphe de ce côté-là. Puis il lui semblait que quelque chose qu'il eût fait pour l'empêcher de couler, quelques gouttes de ce sang répandu, rejaillissaient sur lui. Le docteur descendit à la porte du collège et fit signe à Billot de le suivre. Quant à Pitou, il resta discrètement dans le fiacre. Sébastien était encore à l'infirmerie, le principal en personne, à l'annonce de l'arrivée du docteur Gilbert, l'introduisit lui-même. Billot, qui, si peu observateur qu'il fût, connaissait le caractère du père et du fils, Billot examina avec attention la scène qui se passa sous ses yeux. Autant l'enfant s'était montré faible, irritable, nerveux dans le désespoir, autant il se montra calme et réservé dans la joie. En apercevant son père, il pâlit, la parole lui manqua, un petit frémissement courut sur ses lèvres. Puis il vint se jeter au cou de Gilbert, avec un seul cri de joie qui ressemblait à un cri de douleur, et le tint silencieusement enchaîné dans ses bras. Le docteur répondit avec le même silence à cette silencieuse étreinte. Seulement, après avoir embrassé son fils, il le regarda longtemps avec un sourire plutôt triste que joyeux. Un plus habile observateur que Billot se fût dit qu'il y avait ou un malheur ou un crime entre cet enfant et cet homme. L'enfant fut moins contenu avec Billot. Lorsqu'il put voir autre chose que son père qui avait absorbé toute son attention, il courut au bon fermier et lui jeta les bras autour du cou en disant « Vous êtes un brave homme, monsieur Billot, vous m'avez tenu parole et je vous en remercie. » « Oh, dit Billot, ce n'est pas sans peine, allez, monsieur Sébastien, votre père était joliment enfermé, et il a fallu faire pas mal de dégâts avant de le mettre dehors. »« Sébastien, demanda le docteur avec une certaine inquiétude, vous êtes en bonne santé ?»« Oui, mon père, répondit le jeune homme, quoique vous me trouviez à l'infirmerie. » Gilbert sourit. « Je sais pourquoi vous y êtes, dit-il. » L'enfant sourit à son tour. « Il ne vous manque rien ici ?» continua le docteur. « Rien, grâce à vous. Je vais donc, mon cher ami, vous faire toujours la même recommandation, la même et la seule, travailler. »« Oui, mon père. Je sais que ce mot pour vous n'est pas un son vain et monotone. Si je le croyais, je ne le dirais plus. » « Mon père, ce n'est pas à moi à vous répondre là-dessus, » répondit Sébastien. « C'est à Monsieur Bérardier, notre excellent principal. » Le docteur se retourna vers Monsieur Bérardier, lequel fit signe qu'il avait deux mots à lui dire. « Attendez, Sébastien, » dit le docteur, et il s'avança vers le principal. « Monsieur, » demanda Sébastien avec intérêt, « serait-il donc arrivé malheur à Pitou? Le brave garçon n'est pas avec vous. Il est à la porte, dans un fiacre. « Mon père, » dit Sébastien, « voulez-vous permettre que Monsieur Billot amène Pitou? Je serais bien aise de le voir. » Gilbert fit un signe de tête, Billot sortit. « Que voulez-vous me dire ?» demanda Gilbert à l'abbé Bérardier. « Je voulais vous dire, monsieur, que ce n'était point le travail qu'il fallait recommander à cet enfant, mais bien plutôt la distraction. »« Comment cela, monsieur l'abbé ?»« Oui, c'est un excellent jeune homme que chacun aime ici, comme un fils ou comme un frère, mais... » L'abbé s'arrêta. « Mais quoi ?» demanda le père, inquiet. « Mais si l'on y prend garde, monsieur Gilbert, quelque chose le tuera. »« Quoi donc ?» fit vivement Gilbert. « Le travail que vous lui recommandez. »« Le travail ? » ?»« Oui, monsieur, le travail. Si vous le voyez sur son pupitre, les bras croisés, le nez dans le dictionnaire, l'œil fixe, Travaillant ou rêvant? Demanda Gilbert. Travaillant, monsieur, cherchant la bonne expression, la tournure antique, la forme grecque ou latine, la cherchant des heures entières. Et, tenez, en ce moment même, voyez. En effet, le jeune homme, quoique son père se fût éloigné de lui depuis moins de 5 minutes, quoique Billot eût refermé la porte à peine, le jeune homme était retombé dans une sorte de rêverie qui ressemblait à de l'extase. Est-il souvent ainsi? Demanda Gilbert avec inquiétude. Monsieur, je pourrais presque dire que c'est son état habituel. Voyez comme il cherche. Vous avez raison, monsieur l'abbé, dit-il, et quand vous le verrez, cherchant ainsi, il faudra le distraire. Ce sera dommage, car il sort de ce travail, voyez-vous, des compositions qui feront un jour le plus grand honneur au collège Louis le Grand. Je prédis que d'ici à 3 ans, cet enfant emportera tous les prix du concours. Prenez garde, répéta le docteur, cette espèce d'absorption de la pensée dans laquelle vous voyez Sébastien plongé est plutôt une preuve de faiblesse que de force, un symptôme de maladie plutôt que de santé. Vous aviez raison, monsieur l'abbé, il ne faut pas trop recommander le travail à cet enfant-là, ou au moins faut-il savoir distinguer le travail de la rêverie. Monsieur, je vous assure qu'il travaille quand il est ainsi. Oui, et la preuve, c'est que son devoir est toujours fait avant celui des autres. Voyez-vous remuer ses lèvres? Il répète ses leçons. Eh bien, quand il répétera ses leçons ainsi, monsieur Bérardier, distrayez-le. Il n'en saura pas ses leçons plus mal et s'en portera mieux. Vous croyez? J'en suis sûr. Dame, fit le bon abbé, vous devez vous y connaître, vous que messieurs de Condorcet et Cabanis proclament un des hommes les plus savants qui existent au monde. Seulement, dit Gilbert, quand vous le tirerez de rêveries pareilles, prenez des précautions, parlez-lui bas d'abord, puis plus haut. Et pourquoi? Pour le ramener graduellement à ce monde-ci qu'il a quitté. L'abbé regarda le docteur avec étonnement, peu s'en fallut qu'il ne le tînt pour fou. Tenez, dit le docteur, vous allez voir la preuve de ce que je vous dis. En effet, Billot et Pitou rentraient en ce moment. En 3 enjambées, Pitou fut près de Gilbert. Tu m'as demandé, Sébastien, dit Pitou en prenant l'enfant par le bras. Tu es bien gentil, merci. Et il rapprocha sa grosse tête du front mat de l'enfant. Regardez, dit Gilbert en saisissant le bras de l'abbé. En effet, Sébastien, tiré brutalement de sa rêverie par le cordial attouchement de Pitou, chancela. Son visage passa de la matité à la pâleur, sa tête se pencha comme si son col n'avait plus la force de la soutenir. Un soupir douloureux sortit de sa poitrine, puis une vive rougeur vint colorer ses joues. Il secoua la tête et sourit. « Ah, c'est toi, Pitou, dit-il, oui, c'est vrai, je t'ai demandé. » Puis, le regardant, « Tu t'es donc battu ?»« Oui, et comme un brave garçon, » dit Billot. « Pourquoi ne m'avez-vous pas emmené avec vous ?» fit l'enfant, avec un ton plein de reproches. « Je me serais battu aussi, moi, et au moins j'aurais fait quelque chose pour mon père. » « Sébastien, dit Gilbert en s'approchant à son tour et en appuyant la tête de son fils contre son cœur, tu peux faire beaucoup plus pour ton père que de te battre pour lui. Tu peux écouter ses conseils, les suivre, devenir un homme distingué, célèbre. « Comme vous, n'est-ce pas ? Dit l'enfant avec orgueil. « Oui, c'est bien à quoi j'aspire. » Sébastien, dit le docteur, à présent que tu as embrassé et remercié Billot et Pitou, ces bons amis à nous, veux-tu causer un instant dans le jardin avec moi? Avec bonheur, mon père, 2 ou 3 fois dans ma vie, j'ai pu demeurer seul à seul avec vous, et ces moments sont dans tous leurs détails présents à mon souvenir. Monsieur l'abbé, vous permettez? Dit Gilbert. Comment donc? Billot, Pitou, mes amis, vous avez peut-être besoin de prendre quelque chose. « Ma foi, oui, dit Billot, je n'ai pas mangé depuis le matin, et je pense que Pitou est aussi à jeun que moi. Pardon, dit Pitou, j'ai mangé à peu près la valeur d'une miche et 2 ou 3 saucissons, un moment avant de vous tirer de l'eau, mais le bain, ça creuse. »« Eh bien, venez au réfectoire, dit l'abbé Bérardier, on va vous servir à dîner. »« Oh, dit Pitou. Vous craignez l'ordinaire du collège, fit l'abbé. Rassurez-vous, on vous traitera en invité. D'ailleurs, il me semble, continua l'abbé, que vous n'avez pas seulement l'estomac délabré, mon cher monsieur Pitou. Pitou jeta sur lui-même un regard plein de pudeur. Et que si l'on vous offrait une culotte en même temps qu'un dîner, le fait est que j'accepterais, monsieur l'abbé, dit Pitou. Eh bien, venez donc, la culotte et le dîner sont à votre service. Et il emmena Billot et Pitou d'un côté, tandis qu'en leur faisant signe de la main, Gilbert et son fils s'éloignaient de l'autre. Tous deux traversèrent la cour destinée aux récréations et gagnèrent un petit jardin destiné au professeur, réduit, frais et ombreux, dans lequel le vénérable abbé Bérardier venait lire son Tacite et son Juvénal. Gilbert s'assit sur un banc de bois ombragé par des clématites et des vignes vierges. Et puis, attirant Sébastien à lui, en séparant de la main ses longs cheveux qui retombaient sur son front, « Eh bien, mon enfant, lui dit-il, nous voilà donc réunis. » Sébastien leva les yeux au ciel. « Ah, par un miracle de Dieu, oui, mon père. » Gilbert sourit. « S'il y a un miracle, dit Gilbert, c'est le brave peuple de Paris qui l'a accompli. » « Mon père, dit l'enfant, n'écartez pas Dieu de ce qui vient de se passer, car moi, quand je vous ai vu instinctivement, c'est Dieu que j'ai remercié. » « Et Billot ?» Billot venait après Dieu, comme la carabine venait après lui. Gilbert réfléchit. « Tu as raison, enfant, lui dit-il, Dieu est au fond de toutes choses. Mais revenons à toi, et causons un peu avant de nous séparer de nouveau. Allons-nous donc nous séparer encore, mon père ?» Pas pour longtemps, je présume, mais une cassette renfermant des papiers précieux a disparu de chez Billot, en même temps que l'on m'emprisonnait à la Bastille. Il faut que je sache qui m'a fait emprisonner, qui a enlevé la cassette. C'est bien, mon père, j'attendrai pour vous revoir, que vos recherches soient finies. Et l'enfant poussa un soupir. Tu es triste, Sébastien ? Demanda le docteur. Oui. Et pourquoi es-tu triste ? Je ne sais, il me semble que la vie n'est pas faite pour moi comme pour les autres enfants. Que dis-tu là, Sébastien ? La vérité. Mais explique-toi. Tous ont des distractions, des plaisirs. Moi, je n'en ai pas. Tu n'as pas de distraction, pas de plaisir. Je veux dire, mon père, que je ne trouve pas d'amusement aux jeux de mon âge. Ah, prenez garde, Sébastien. Je regretterais fort que vous eussiez un pareil caractère. Sébastien, les esprits qui promettent un avenir glorieux sont comme les bons fruits pendant leur croissance. Ils ont leur amertume, leur acidité, leur verdeur, avant de réjouir le palais par leur savoureuse maturité. Croyez-moi, il est bon d'avoir été jeune, mon enfant. Ce n'est pas ma faute si je ne le suis pas, répondit le jeune homme avec un sourire mélancolique. Gilbert continua en pressant les deux mains de son fils dans les siennes et en fixant ses deux yeux sur les siens. « Votre âge, mon ami, c'est celui de la semence. Rien ne doit encore percer au dehors de ce que l'étude a mis en vous. À 14 ans, Sébastien, la gravité, c'est de l'orgueil ou de la maladie. Je vous ai demandé si votre santé était bonne. Vous m'avez répondu oui. Je vais vous demander si vous êtes orgueilleux. Tâchez de me répondre non. » « Mon père, dit l'enfant, rassurez-vous, ce qui me rend triste, ce n'est ni la maladie, ni l'orgueil, non, c'est un chagrin. »« Un chagrin, pauvre enfant, et quel chagrin, mon Dieu, peux-tu donc avoir à ton âge ? Voyons, parle. »« Non, mon père, non, plus tard, vous l'avez dit, vous êtes pressé, vous n'avez qu'un quart d'heure à me donner, parlons d'autre chose que de mes folies. » « Non, Sébastien, je te quitterai inquiet, dis-moi, d'où te vient ce chagrin ?» « En vérité, je n'ose, mon père. Que crains-tu ? Je crains de passer à vos yeux pour un visionnaire, ou peut-être de vous parler de choses qui vous affligeraient. Tu m'affliges bien plus en gardant ton secret, cher enfant. Vous savez bien que je n'ai pas de secret pour vous, mon père. Alors parle. Je n'ose, en vérité. Sébastien, toi qui as la prétention d'être un homme, c'est justement pour cela. Allons, du courage !» « Eh bien, mon père, c'est un rêve qui t'effraie. Oui et non, car quand je fais ce rêve, je ne suis pas effrayé, mais comme transporté dans un autre monde. Explique-toi. Tout enfant, j'ai eu de ces visions. Vous le savez, deux ou trois fois, je me suis perdu dans ces grands bois qui environnent le village où j'ai été élevé. Oui, on me l'a dit. Eh bien, je suivais quelque chose comme un fantôme. Tu dis? Demanda Gilbert en regardant son fils avec un étonnement qui ressemblait à de l'effroi. Tenez, mon père, voilà ce qui arrivait. Je jouais comme les autres enfants dans le village, et tant que j'étais dans le village, tant qu'il y avait d'autres enfants avec moi ou près de moi, je ne voyais rien, mais si je m'écartais d'eux, si je dépassais les derniers jardins, je sentais près de moi comme le frôlement d'une robe. J'étendais les bras pour la saisir, et je n'embrassais que l'air, mais à mesure que ce frôlement s'éloignait, le fantôme devenait visible. C'était une vapeur, d'abord transparente comme un nuage, puis la vapeur s'épaississait et prenait une forme humaine. Cette forme, c'était celle d'une femme, glissant plutôt qu'elle ne marchait, et devenant d'autant plus visible qu'elle s'enfonçait dans les endroits les plus sombres de la forêt. Alors, un pouvoir inconnu, étrange, irrésistible, m'entraînait sur les pas de cette femme. Je la poursuivais, les bras tendus, muet comme elle, car souvent j'essayais de l'appeler, et jamais ma voix n'a pu former un son. Et je la poursuivais ainsi, sans qu'elle s'arrêtât, sans que je pusse la rejoindre, jusqu'à ce que le prodige qui m'avait annoncé sa présence me signalât son départ. Cette femme s'effaçait peu à peu. La matière devenait vapeur, la vapeur se volatilisait, tout était dit, et moi, épuisé de fatigue, je tombais à l'endroit même où elle avait disparu. C'est là que Pitou me retrouvait quelquefois le jour même, quelquefois le lendemain seulement. Gilbert continuait de regarder l'enfant avec une inquiétude croissante. Ses doigts s'étaient fixés sur son pouls. Sébastien comprit le sentiment qui agitait le docteur. Oh, ne vous inquiétez pas, mon père, dit-il. Je sais qu'il n'y a rien de réel dans tout cela. Je sais que c'est une vision. Voilà tout. Et cette femme, lui demanda le docteur, quel aspect a-t-elle? Oh, majestueuse comme une reine. Et son visage, l'as-tu vu parfois, enfant? Oui. Depuis quand? Demanda Gilbert en tressaillant. Depuis que je suis ici seulement, répondit le jeune homme. Mais à Paris, tu n'as plus la forêt de Villers-Cotterêts, les grands arbres faisant une sombre et mystérieuse voûte de verdure. À Paris, tu n'as plus le silence, la solitude, cet élément des fantômes. Si, mon père, j'ai tout cela. Où donc? Ici. Comment ici? Ce jardin n'est-il pas réservé au professeur? Si fait, mon père, mais deux ou trois fois, il m'avait semblé voir cette femme glisser de la cour dans le jardin. J'avais à chaque fois voulu la suivre, toujours la porte fermée m'avait arrêté court. Alors qu'un jour l'abbé Bérardier, très content de ma composition, s'informait de ce que je désirais, je lui demandai de venir avec lui me promener quelquefois dans le jardin. Il me le permit, je suis venu, et ici, mon père, la vision a reparu. Gilbert frissonna. Étrange hallucination, dit-il, mais possible cependant chez une nature nerveuse comme la tienne. Et tu as vu son visage? Oui, mon père. Te le rappelles-tu? L'enfant sourit. As-tu essayé jamais de t'approcher d'elle? Oui. De lui tendre la main? C'est alors qu'elle disparaît. Et à ton avis, Sébastien, quelle est cette femme? Il me semble que c'est ma mère. Ta mère? S'écria Gilbert, pâlissant. Et il appuya sa main sur son cœur comme pour y étancher le sang d'une douloureuse blessure. Mais c'est un rêve, dit-il, je suis presque aussi fou que toi. L'enfant se tut et le sourcil pensif regarda son père. Eh bien, lui demanda celui-ci, eh bien, il est possible que ce soit un rêve, mais la réalité de mon rêve existe. Que dis-tu? Je dis qu'aux dernières fêtes de la Pentecôte, on nous a conduits en promenade au bois de Satory, près de Versailles, et que là, tandis que je rêvais à l'écart, la même vision t'est apparue, oui, mais cette fois dans une voiture traînée par quatre magnifiques chevaux, mais cette fois bien réelle, bien vivante, j'ai manqué défaillir. Pourquoi cela? Je ne sais. Et de cette nouvelle apparition, quelle impression t'est-il resté? que ce n'était point ma mère que je voyais apparaître en rêve, puisque cette femme était la même que celle de mon apparition et que ma mère était morte. Gilbert se leva et passa sa main sur son front. Un étrange éblouissement venait de s'emparer de lui. L'enfant remarqua son trouble et s'effraya de sa pâleur. « Ah, dit-il, vous voyez, mon père, que j'ai eu tort de vous conter toutes ces folies. » « Non, mon enfant, non, au contraire, dit le docteur, parle-m'en souvent, parle-m'en toutes les fois que tu me verras, et nous tâcherons de te guérir. » Sébastien secoua la tête. « Me guérir ? Et pourquoi, dit-il, je me suis fait à ce rêve, il est devenu une portion de ma vie. J'aime cette vision, quoiqu'elle me fuit, et que parfois même il me semble qu'elle me repousse. Ne me guérissez donc pas, mon père, vous pouvez me quitter encore, voyager de nouveau, retourner en Amérique. Avec cette vision, je ne suis pas tout à fait seul. » « Enfin, murmura le docteur, et pressant Sébastien sur sa poitrine, « Au revoir, mon enfant, dit-il, j'espère que nous ne nous quitterons plus, car si je pars, eh bien, je tâcherai cette fois que tu viennes avec moi. » « Ma mère était belle ? Demanda l'enfant. « Oui, bien belle, répondit le docteur d'une voix étranglée. « Et vous aimait-elle autant que je vous aime ? Sébastien, ne me parle jamais de ta mère, dit le docteur. » Et appuyant une dernière fois ses lèvres sur le front de l'enfant, il s'élança hors du jardin. Au lieu de le suivre, l'enfant retomba, morne et accablé, sur son banc. Dans la cour, Gilbert retrouva Billot et Pitou, parfaitement restaurés, et racontant à l'abbé Bérardier les détails de la prise de la Bastille. Il fit au principal une nouvelle recommandation à l'endroit de Sébastien et remonta dans le fiacre avec ses deux compagnons.